ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Bienvenue auditeurs, auditrices de Radio Diwa sur le 107.5 FM ou sur rdwa.fr. Toutes les émissions de Radio Diwa sont en podcast sur ce site. Et pour cette émission particulière, eh bien, c'est la deuxième émission de Radio Medium de la deuxième saison. Alors profitez-en pour régler vos casques, régler vos micros, tout régler. Et voilà, on est parti pour une demi-heure. Pour une demi-heure qui fait suite à l'émission de la semaine dernière.
Salut.
Et oui, je rappelle la thématique, c'était un peu sortir de la prison qui est dans sa tête. Donc bonjour Marion, Liliane, Rimiam et Ben.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Ça allait bien comme ça, David Bowie, ce Major Tom qui décide de s'échapper de la Terre et dans sa fusée de ne pas répondre à la base et de prendre la fuite. Oh, ça tombe bien. Tu as un texte à nous lire qui s'appelle Extraterrestre, Liliane.
Ouais, du coup, moi, j'ai écrit un texte qui s'appelle Extraterrestre pour parler des êtres humains, en fait. Alors, l'homme devenu extraterrestre attend les extraterrestres. Il a peur. Peut-être. Mais il attend. Peur de lui-même. Il attend. Homme affligeant et banal, extraterrestre. Ton espérance morte attend encore. Voilà. Ben, en fait, j'ai écrit ce texte parce que je trouve que les hommes, nous, les êtres humains, on est un peu coupés de la Terre. Des animaux, des plantes, parce que quand même on se nourrit de... C'est les animaux qui nous nourrissent, les plantes aussi. Et tous les jours, quand on est petit, on va à l'école. Même quand on reçoit de l'amour, eh ben, on va quand même à l'école et on est assis sur une chaise. On n'a pas de contact avec les animaux qui nous nourrissent, ni avec les plantes. Et pour moi, ça participe à la prison, quoi. Ça fait que nous éloigner, en fait, de la planète, quelque part. Et ça participe à la prison qui est dans notre tête. Donc ça fait que même si on a eu de l'affection, de l'amour de nos parents et tout ça, on est tellement, même avec cet amour et cette affection, on est tellement dirigé, on est tellement bridé, quelque part. Comme si on nous habituait à être en laisse, quoi, depuis tout petit, avec une laisse au cou, comme les chiens, quoi. Et je trouve que ça participe vraiment à la prison, voilà. Alors ça, c'est mon point de vue, après, voilà, on peut réagir, hein.
Donc c'est ce que tu disais, Ben, la semaine dernière, que toi, tu avais l'impression d'avoir reçu, en tout cas, tout l'amour dont tu avais besoin, mais que tu n'avais pas pu échanger... sur peut-être des alternatives à la société, en fait, avec tes parents. Et tu penses que ça participe au fait de te sentir enfermé, quelque part ?
Ouais. Après, je pense plus largement, il y a plein de choses qui y participent et qu'on a tous subies pendant notre enfance, même encore maintenant. Comme tu disais, Liliane, tous les matins, on va à l'école. Tous les matins, on va à l'école... de telle heure à telle heure, c'est des rythmes fixes qui nous sont imposés, après on va à l'université ou pas, et après au travail, et c'est toujours des contraintes d'espace, on va à un lieu spécifique, à des heures spécifiques, et rien que ça, en fait, c'est une temporalité et un espace qui nous sont imposés et qui sont restreints. Et je pense que pour comprendre et expérimenter ce que c'est la liberté, en fait, il faut en avoir le temps et l'espace spécifique, enfin, nécessaire plutôt, et qui essaie de sortir un peu de ces cadres qui nous sont imposés. Et c'est une des choses qui nous bride. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont du domaine aussi de l'inconscient, comme les rapports de genre ou encore, je sais pas, le mythe de l'amour, comme on disait, ou le culte du progrès, ou plein de choses que le monde dans lequel on vit auquel le monde dans lequel on vit nous conditionne et dont on a du mal à sortir. C'est plein de choses à déconstruire et c'est un gros travail quoi, si on veut se lancer là-dedans.
Donc tu as l'impression depuis tout petit d'être enfermé dans des schémas qui t'ont conditionné.
Ouais, enfin.
Et que tu essayes de déconstruire.
C'est ça, à peu près.
Depuis pas très très longtemps.
Voilà, depuis pas très longtemps.
Et alors, comment tu procèdes ? Est-ce que tu arrives à lâcher certains schémas ?
Petit à petit, ouais. Ça, c'est un travail de fond, quoi. C'est comme, je crois que je le disais la semaine dernière, ça prend vraiment longtemps. Ça nécessite du travail et beaucoup de discussions avec d'autres personnes qui sont dans la même optique. Aussi à travers des lectures, des expériences, des expérimentations.
Est-ce que ça touche tous les sujets ?
Les sujets, je sais pas. Mais
je ne sais pas, le travail, l'habitat, l'amour, la famille, le couple.
Carrément, façon carrément. De vivre.
Moi, je suis bien d'accord avec ce que vous dites. Et par rapport à la déconstruction, tout ça. Et au fait, et par rapport au fait que dans notre apprentissage, depuis notre tendre enfance, on coupe tout le savoir qui nous est transmis et nous est transmis de façon hachée, découpée, de façon à ce qu'on ne puisse pas faire de lien nous-mêmes entre différentes choses. Et ça, c'est aussi un... quelque chose que j'ai envie de me réapproprier, c'est-à-dire de pouvoir refaire des liens entre plein de choses, puisque au final tout est lié.
Alors je sais pas si je peux lire, moi j'ai encore un autre texte qui parle de la ville, parce qu'en fait moi j'ai grandi à la campagne, donc proche des animaux et proche des plantes, enfin proche de, comment dire, du côté brut quoi, de, enfin du
nature peinture,
le contact assez brut avec le vivant et avec ce que je mange quoi, je l'ai eu quand j'étais petite, donc c'est peut-être une richesse quelque part, même si j'ai manqué d'affection. Parce que j'ai rejeté mes parents à cause d'un traumatisme. J'ai rejeté ma mère, donc j'ai manqué d'affection. Mais j'ai quand même eu ce côté... j'ai eu la chance d'avoir ce contact avec la nature. Donc ça fait que j'ai écrit sur la ville. Et des fois, quand je parle de la ville, eh ben, c'est assez violent, quoi. Parce que pour moi, la ville, c'est quand même une grande violence. Ça ajoute de la violence, quoi, pour moi. Enfin, en ce qui me concerne, mon rapport, ce rapport à la ville, il ajoute de la violence encore. Donc, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Pressé ». Je suis en guerre, peut-être parce que je suis en révolte contre tous ces gens pressés, qui sont en guerre eux aussi. Ils sont juste plus ou moins pressés. Comme en ville. Ville, court-circuit. Tu n'as plus de souffle. Tu n'as plus d'amis. Tu es la fuite vers ces autres mondes que l'on voudrait être. Où sont les tickets pour l'autre monde ? Dans les pharmacies ? Et la ville est ce grand hôpital. Quand il n'y a plus de pilule du bonheur, il nous reste la fuite vers ce petit moule où l'on dort. En attendant le jour d'après, après l'ennui, après la pluie, après l'été, après l'hiver, l'après-demain, après ta main, après ton chien, après vous. L'homme cupide ne s'est pas donné parce qu'à l'intérieur, il y a ce gouffre qui lui donne une sensation de manque toujours présent. Paradoxalement, le manque est devenu son obsession permanente. Invisible, impalpable, comme un ennemi derrière son dos, ton dos, qui te souffle à l'oreille tout ce que tu dois faire et ne pas faire. La peur du manque nous manipule. La peur, c'est le court-circuit de notre vie. Ces courts-circuits qui constituent la ville. Mais les liens entre les hommes ne peuvent pas être des courts-circuits. Voilà. Merci. C'est un peu violent, mais bon.
Ça représente un peu la société, quand même.
Ouais. Voilà, quoi.
Donc c'est comme ça que tu vois la norme, les schémas ?
Ouais. Moi, des fois, j'ai cette vision, en fait, cette vision-là, parce que, voilà, peut-être parce que j'ai manqué d'affection, et du coup, ma vision sur la ville, et sur les gens, et sur les schémas, peut-être elle m'agresse encore plus. Enfin, tout ça, ça m'agresse encore plus du fait que j'ai manqué, en fait. Toujours pareil, d'affection, d'amour, tout ça, je sais pas. Donc en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai cette vision très radicale.
Parce que t'as besoin de douceur et du coup tu vois toute la violence.
Peut-être.
Je trouve intéressant de voir le manque comme l'ennemi. Enfin, qui du coup devient un personnage, quoi.
Oui. Ça devient quelqu'un derrière son dos qui nous met le couteau sur la gorge en permanence, quoi, et qui... Ouais, c'est un peu ça.
Oui, je veux bien.
La peur, quoi. Ça devient une entité, quoi.
Qui en même temps est impalpable.
Ouais.
C'est vrai.
Et qui est très important pour le dressage.
Oui.
Ça évoque aussi des choses où on dit que ce dressage aux horaires, par exemple, il est très récent dans l'histoire de l'humanité. Au moment où l'ère industrielle a commencé, il a fallu vraiment un gros effort de la part de l'humanité pour se dresser elle-même à suivre des horaires. Avant, c'est quelque chose qui n'existait pas. On se levait pas avant le soleil pour aller travailler à l'usine, quoi. Donc ensuite, il a fallu faire ça. Et le fait que ce soit très récent dans l'histoire de l'humanité, c'est peut-être quelque chose dont on pourrait avoir le plus de facilité à se débarrasser, cette habituation à suivre des horaires ou à suivre des horaires imposés. Car vous qui écoutez la radio, vous savez que s'il n'y avait pas d'horaire à la radio, ce serait un joyeux foutoir, hein, et peut-être qu'il n'y aurait pas de radio du tout. Alors voilà, mais la radio, c'est pas l'usine quand même, donc on peut... Mais sinon, ce dressage a commencé bien avant, et quand tu dis, Liliane, que tu étais en contact avec les animaux qui nous nourrissent et les plantes qui nous nourrissent, tu étais en contact avec des plantes et des animaux pour la plupart domestiqués.
Oui.
Et ça a commencé il y a plusieurs milliers d'années. Et déjà, à ce moment-là, une étape avait été franchie dans la folie collective dont nous sommes victimes aujourd'hui.
Et en partie responsable, puisqu'on continue.
Ouais.
Et je trouve qu'on a abordé une autre thématique, qui est la thématique de la séparation avec ton texte, Liliane. Le fait qu'il y a des liens entre les humains et qui ne doivent pas être des courts-circuits, mais qu'en tout cas, il y a des liens entre tout, quoi. Et que j'ai l'impression, enfin oui, je crois qu'aujourd'hui, notre science, notre physique, tous les trucs qu'on a dans la tête sont... Enfin, nous font croire qu'on est séparés du monde, ouais. Qu'on est séparés du monde qui nous nourrit. Et je crois que de plus en plus, les penseurs et les penseuses et les mouvements qui vont dans la voie de l'émancipation sont aussi dans le fait de nier cette séparation, que ce soit les situationnistes dans les années 60 ou... je sais pas, j'écoutais à la radio récemment Vandana Shiva qui est une écologiste radicale, féministe, indienne, de tout à fait contemporaine. Et voilà, il y a tout un mouvement qui tend à nier la séparation et à se dire qu'en fait, je pense que Vandana Shiva, elle est aussi physicienne quantique, enfin physicienne qui s'intéressait à la physique quantique et où elle a choisi cette voie aussi pour voilà, pour remettre en question la séparation qui est une idéologie dominante aujourd'hui. Ça m'évoquait ça.
Oui, ouais, c'est important ça, de dire ça, je pense.
Ouais, tout à fait. Et puis ces séparations, elles sont engendrées même par notre mode de pensée, en fait. C'est ça le problème, tout le reste, tous ces manques affectifs, ces dépendances, les manques, comme tu disais, pour moi, ça, c'est plutôt des symptômes.
Ouais.
Qui nous viennent d'un mode de pensée qui est erroné, en fait. C'est la raison qui est séparatrice, en fait. La pensée analytique, elle va séparer les choses, et c'est là-dessus que sont basées toutes nos lois, nos sciences, c'est une pensée qui s'est mise en place depuis les philosophes de la Grèce antique, quoi. Donc c'est un truc qui n'est pas récent du tout, et les bases remontent très loin dans le temps, en fait. Il y a des gens qui ont composé les fondations d'un mode de pensée spécifique, et c'est celui qu'on utilise depuis des centaines d'années et qui n'a pas vraiment évolué, quoi.
Ouais. D'autant plus difficile à déconstruire.
Ouais.
Mais ce qui est très récent, c'est que ce mode de pensée devient un mode de pensée unique imposé au niveau de la planète, parce qu'il était ultra minoritaire avant que les Européens ne se mettent à coloniser le monde entier. Tu voulais dire quelque chose à Rémiel?
Je sais pas, j'ai un texte qui parle de la coupure.
Alors, ce qu'on peut se faire, c'est faire une coupure avec une petite musique de Colette Mani, et puis on enchaînera sur ton sur ton texte.
J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont partis, et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Telle la prairie à l'oubli livré, grandi et fleuri, dansant et livré, au bourdon farouche des sales mouches. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne.
Colette Mani, chanson de la plus haute tour. Et alors, un texte qui nous vient qui est écrit par Christiane Rochefort. De quel ouvrage s'agit-il ?
Il s'agit de Les enfants d'abord. Et ce passage s'appelle Coupure, justement. Alors, le nouveau-né est séparé sans délai du corps nourricier. Dans les hôpitaux les plus avancés, un bac de verre en compagnie d'une assemblée de tes pareils, et mieux encore, un cœur maternel pour tous, qui bat en haute fidélité par haut-parleur. Car ils sont avisés que tu cries après le ventre de ta mère. Le dedans, bien sûr. Alors, ils en ont fait un artificiel. Mais ils ne vont pas te mettre dessus. Séparé de la chaleur humaine, tu as froid, forcément. Ils ne te la rendent pas. Ils te couvrent de laine. Te séparant de ton propre corps, te privant de ta nudité, et du même coup de la mère la mère de son enfant nu, avec qui elle pourrait faire connaissance par le moyen le plus probant, le toucher, la caresse. Les chambres sont pourtant chauffées, la contagion improbable entre ces deux-là, qui étaient l'un dans l'autre, Ou bien s'agirait-il de morale ? La maternité est douleur, pas question que les femmes en jouissent. Ni les enfants. Il est souvent séparé du sein, qui le fait jouir. Le manger est séparé du jouir. Et aussi du désir. La nourriture arrivera du dehors, aux horaires découpés par une autorité, le pédiatre. Des pédiatres avancés, opérant surtout en milieu aisé, permettent de nourrir l'enfant quand il a faim. On met l'emphase sur le point de vue des enfants, du coup celui des femmes paraît escamoté, puisque dans l'état actuel des choses, les deux ne concordent pas. Dans une société où la progéniture est tirée d'elle par force, même si c'est la force de la persuasion, où les enfants sont leur lot et sont utilisés pour aliéner les femmes, dans une société où la progéniture est tirée d'elle de force, même si c'est la force de la persuasion, où les enfants sont leur lot et sont utilisés pour les aliéner, les femmes veulent, ne serait-ce qu'au niveau de l'inconscient, en être aussi libres que possible. Réponse légitime à la pression. C'est là encore un antagonisme instauré par les structures de pouvoir, et on ne peut imaginer de résolution que hors de ces structures-là. De fait, on voit des recherches de solutions pratiques dans des groupes marginaux, communautés ou mères délibérément autonomes, haïs par l'établissement, bien sûr. À l'intérieur des structures de pouvoir, le rapport enfant-femme est d'une douloureuse complexité. L'antagonisme mère-oppresseur, enfant-charge, dissimulant bien commodément la communauté d'oppression et empêchant toute stratégie horizontale de lutte entre les classes solidaires, abolissant le rapport de verticalité. Il serait temps de dégager la vocation de solidarité enfant-femme.
Ouais, c'est assez vrai. Hein.
Comme une parole contre la séparation.
Ben ouais.
Ouais, qui commence au premiers instants de la vie, de plus en plus.
Donc a priori, c'est avant les dernières générations, c'est tout ce qu'on a vécu, nous.
Effectivement.
Donc on a tous à peu près ça à dépasser.
Ouais. 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 Moi, j'ai accouché à 10. Et ouais, j'ai... Enfin,
à la maternité, tu veux dire ?
Ouais, à la maternité de Dee et la poche de... Et la poche qui est à l'intérieur du ventre. Quand Manon est née, ma fille est née, il y a une poche à l'intérieur et elle ne sortait pas. Et du coup, ils voulaient me planter leur aiguille dans l'eau, là, la péridurale, juste pour faire sortir la poche. Parce qu'ils voulaient aller avec leurs gants dans mon ventre et arracher cette poche. Et moi, je savais que si le bébé tétait au sein, et ben la poche elle allait sortir. Du coup, j'étais là, au milieu des médecins, là, qui étaient prêts à tous autour de moi, en train de, avec leur aiguille, bon, allez, il faut lui planter l'aiguille. Et moi, j'étais là à essayer de leur dire, donnez-moi l'enfant, il faut qu'il tète. Du coup, ils ont fini par me donner Manon, ma fille, et je l'ai fait téter au sein. Et juste le fait de la succion, quoi, du bébé qui tète, ça fait un stimulus dans le ventre et ça éjecte la poche, en fait. La poche, elle est sortie de suite, quoi. Et voilà, et ça, et même ça, ils sont tellement déconnectés du vivant, même les médecins, quoi, qu'en fait, ils comprennent pas tout de suite. Après, ils voient, ils disent, bon, bah oui, effectivement, ça marche, mais... Ils captent plus.
Est-ce qu'il faut dire même les médecins ou est-ce que c'est pas eux aussi qui, enfin l'institution médicale qui nous sépare du vivant, qui a été construite pour ça, avec l'éradication de tous les savoirs populaires sur la santé et quitte à brûler des gens pendant plusieurs siècles, à brûler des sorcières, enfin des soi-disant de sorcières, mais oui, surtout les médecins, je dirais, même, mais
tout à fait.
Et il faut faire preuve d'un courage énorme, comme tu l'as fait, pour arriver à affirmer ce que tu veux, bravo.
C'est ça. Ça a dû être difficile pour toi. Et félicitations. Je suis assez sidérée que tu réussis à tenir ton cap. Parce que c'est vraiment pas facile face à toutes ces blouses blanches qui sont très insistantes.
Oui, c'est sûr.
T'es sûre d'elle.
Ah oui, ça c'est sûr, ils sont sûrs, hein, là, ils savent tout. Ils ont le savoir
absolu.
Absolu, quoi. Il y a l'unique réalité, c'est eux qui la possèdent, quoi.
Et quand tu dis, du coup, la médecine séparée du vivant, c'est sûr. On apprend l'anatomie sur des corps morts, en fait. Enfin, ouais. En médecine.
Ah, oh, quelle horreur.
Donc, déjà, il y a. Enfin, ça à garder à l'esprit quand même.
On peut pas leur en vouloir.
Mais ça
compatissant avec les médecins.
Ça rejoint avec les médecins, oui, mais pas avec la médecine.
Oui.
Et ça rejoint aussi cette idée d'arriver à faire face au regard des autres quand quelqu'un qui soi-disant sait et armé d'une blouse blanche et d'un stéthoscope ou de n'importe quel attribut du pouvoir ou une matraque ou n'importe quoi, hein, des chaussures à clous, et ben d'arriver à se détacher du regard des autres et à pouvoir s'affirmer.
Ouais, t'es obligé, c'est un combat, quoi. C'est vraiment un combat, en fait. Faut s'affirmer vraiment. Dire. Moi, des fois, j'y arrive pas, des fois, je m'énerve. Et des fois, j'arrive pas toujours à m'affirmer sans violence, en fait. Des fois, j'ai tendance à m'énerver. Mais bon.
Et ça a été le cas, voilà. Cette fois-là ?
Bah là, non, en fait, j'ai juste, j'ai essayé de leur répéter plusieurs fois qu'il fallait le faire, qu'il fallait faire comme ça. Et ils ont, à force, ils ont accepté, quoi. Ils ont compris et ils l'ont fait. Ils m'ont donné l'enfant, je l'ai fait téter, et ça a fonctionné, quoi.
Et comment ils ont réagi quand ils ont vu que le placenta est effectivement sorti ?
Ouais, bah, ils se sont dit, bon, ça c'est fait, à mon avis. Ils ont dit dans leur tête, ils ont dû se dire, bon.
Ça les a pas vexés ?
Je pense pas, non. Je pense
ils
pas.
Étaient contents ?
Ouais, je pense qu'ils sont tout de suite passés à autre chose. Ils n'ont pas été...
Ils n'ont pas jubilé non plus, quoi.
Non.
On s'approche tranquillement de la fin de cette demi-heure de Radio Médium consacrée à la spiritualité concrète. Donc là, on est bien dans le concret.
C'est oui.
Et dans la force de nos esprits aussi nécessaire. Quelque chose à rajouter pour permettre pour qu'on puisse enchaîner sur une prochaine émission une semaine prochaine.
Bah, je pense que si on parle de normes et de s'adapter à des normes, donc en opposition, puisqu'il y a toujours une opposition, bah, en fait on peut parler de marginalité ou de folie peut-être. Donc est-ce que peut-être que dans ton cas t'as été passé pour une folle ou je sais pas, qu'est-ce que
oui.
Si on répond pas à une norme, est-ce qu'on est pris pour un fou, pour une folle, est-ce que en tout cas pour des marginaux,
et ouais.
Et souvent est-ce que ça nous rend heureux d'être marginal, est-ce que si on arrive à être à affirmer nos différences, est-ce qu'on peut accéder au bonheur ou à la joie
oui.
Du fait de réussir à s'affirmer, en fait.
Oui, moi, je pense, et je pense que c'est le seul chemin, en fait, pour l'humanité. L'humanité, elle a que ce chemin à accomplir pour moi. Personnellement, c'est ma vision.
Bon, ben, on creusera cette question dans même une seule émission, on n'y suffira pas. Il y a un autre chemin, c'est le chemin de Major Tom et je propose qu'on finisse cette émission avec la fin de cette chanson que voilà pour que tout le monde puisse l'entendre. À la semaine prochaine avec cette équipe, une autre ou une autre thématique, on ne sait pas encore. On est dans l'improvisation. Salut.
Salut.
Salut. Salut. Salut.